Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour à tous et bienvenue sur Super Laser Punch. Nous sommes en retard d'une semaine, mais en forme quand même. On va vous détailler les épisodes 4 et 5 de Falcon and the Winter Soldier. On va passer tout ça en revue, commenter, apprécier ou non, peut-être pas. Vous vous souvenez que l'épisode numéro 3 nous avait pas vraiment plu, mais en tout cas, on va être avec vous pour ce petit débrief. Je suis Patrick Béja et je suis avec mon ami Johan, comme à chaque épisode. Comment ça va, Johan ?
Ça va super bien. En ce moment, je me suis reperdu pour la xème fois dans Dark Souls 3, et quand ça m'arrive, je suis très heureux. Voilà.
Écoute, donc tu es heureux, c'est bien, c'est l'essentiel. Et moi, de mon côté, je suis en vie, ce qui est également l'essentiel pour ceux qui ne le savent pas. J'imagine que vous êtes peu nombreux. Ma fille est née il y a une semaine à peine, et déjà, je suis de retour dans le monde des podcasts. Bon, pas complètement, hein, c'est uniquement pour ce petit Super Laser Punch, parce que je ne peux pas m'empêcher de discuter de Falcon and Winter Soldier. Et c'est aussi un petit peu plus facile à faire que les centaines d'articles que je dois lire pour faire la veille sur les autres émissions que je fais. Mais elles sont entre de bonnes mains. Et puis là, ça me permet d'avoir un petit moment tranquille, échappé, loin des biberons et des couches avec Johan. Donc ça veut dire que moi aussi je suis heureux.
Super. Et bah, en plus, je suis d'autant plus heureux que j'ai pas mal aimé quand même cet épisode 4.
Ouais.
Et encore plus l'épisode d'après. Mais
encore plus l'épisode 5. Faudra. Alors oui, effectivement, l'épisode 3 nous avait pas plu, comme je le disais. On l'avait trouvé un petit peu décousu, un petit peu fouillé, un petit peu chaotique. Et on a eu plusieurs commentaires de gens qui nous disent « Ah, mais c'est bien, ça prouve que vous n'êtes pas des vendus à la cause
vendus,
de Marvel.
Ouais. »
C'est marrant parce que c'est le genre de truc où comment dire, il y a plein de gens qui l'ont aimé, cet épisode, parce qu'il y avait un petit peu d'action et ce genre de truc extrêmement futile, comme on en rediscutera peut-être pour les épisodes 4 et 5. Mais bon, c'est vrai que pour moi, j'ai beaucoup de mal à comprendre comment on peut l'avoir aimé, cet épisode 3. Mais bon, après, tous les goûts sont dans la nature. Mais l'épisode 4... Oui, pardon, vas-y.
Oui, j'allais dire qu'il y a quand même pas mal d'éléments issus des comics qui sont apportés et que je comprends aussi que ça fasse plaisir de montrer, de voir Matt Reeves, ce genre de choses-là.
Mais c'est tellement superficiel, tu vois. Effectivement, tu vois Madripoor, c'est des trucs qui sont des... Enfin, il y avait des éléments qui sont hyper emblématiques dans les comics, et ça, je comprends que ça fasse plaisir, mais c'est quand même très superficiel, tu vois. T'agites une photo d'un truc que les gens connaissent, tu montes le masque, la cagoule de Zemo, c'est genre « Oh, c'est Zemo, regarde !» Bon, bref, enfin, peu importe. Comme je disais, tous les goûts sont dans la nature, tant mieux pour ceux qui apprécient cet épisode 3. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que certains ont moins apprécié également les épisodes 4 et 5, qui étaient peut-être, à part certains points forts, ou en tout cas pour le 4, un petit peu plus lents. Mais encore que. Bah, je vais te laisser peut-être faire la chronologie, parce que tu as pris des super notes pendant que moi je changeais des couches. Donc, on se lance dans The World is Watching, épisode 4.
Ah bah, du coup, cet épisode-là, il commence assez fort avec un flashback au Wakanda. Enfin, au Wakanda. Un peu éloigné du Wakanda, on le voit au fond. Hein. On sent qu'il fallait quand même rester dans le budget de l'épisode.
En gros, c'est dans la forêt. Ok, très bien.
Voilà, dans la forêt.
Et, en même temps, il vivait dans une sorte de hutte, hein, le White Wolf, donc c'est pas loin.
Il avait pas un loft en centre-ville.
C'est ça, ouais.
En tout cas, du coup, on voit effectivement... une espèce de travail que faisait du coup Bucky avec Ayo sur lui-même pour essayer de se rendre résistant au trigger word, au mot de passe qui l'activait en tant que Winter Soldier. J'ai trouvé cette scène assez intense en fait, hein, ouais. Parce que je trouve qu'on n'a pas forcément eu beaucoup l'occasion de voir beaucoup du panel du jeu d'acteur
Sébastien Stan.
Je connais pas les noms d'acteurs, mais et là je trouve, enfin là j'étais vraiment pris hein, dans son truc à lui et.
C'est particulièrement émouvant parce qu'on sent que, moi, la manière dont je l'ai interprété, c'est que c'est le test après qu'ils aient retiré les moyens, comment, les méthodes d'activation. Ils font la première fois le test pour voir si ça va marcher et on sent ses pleurs, parce qu'il est en pleurs du début à la fin de la scène, mais il y a un truc qui shift. Au début, il est en pleurs parce qu'il a peur de ce qui va se passer ou de ce qui pourrait se passer. Et on sent qu'après qu'elle ait fini les mots, il est en pleurs parce qu'il est soulagé que ça ne soit pas arrivé. Et je trouve qu'on sent ce shift et c'est effectivement assez fort, quoi, assez intense. Et j'ai beaucoup aimé aussi, ouais.
Et du coup, bah, après cette scène-là, on embraye avec, pour le coup, on retourne dans les tenues.
Juste un autre truc, quand on avait vu Ayo la dernière fois... Qui apparaissait, on disait justement, bon, c'est quand même une acteur B, bis, C, qu'on avait vu dans le fond, dans les films. Et là, j'ai bien aimé parce que ça lui donne du corps, ça lui donne de la présence. Et du coup, maintenant, c'est plus une anonyme qui tient une lance, c'est pas juste une Dora Milaje qui est...
Et puis, ça nous donne aussi un historique assez fort émotionnellement entre ces deux personnages. Ça. Parce que du coup, effectivement... On se doutait qu'ils se connaissaient, mais ils ont vécu quelque chose d'assez puissant. Et du coup, ça donne aussi du poids aux interactions qu'il peut y avoir et aux tensions, parce que du coup, ils ont des intérêts un petit peu divergents concernant Zemo, justement, à ce moment-là. Et du coup, je trouve ça super intéressant d'avoir calé cette séquence-là, qui finalement, on aurait pu ne pas la montrer, parce qu'on a déjà vu qu'il s'était affranchi de cette prise de contrôle, etc. Tu vois, c'est pur. Là, pour le coup, c'est vraiment une séquence qui sert purement.
C'est juste du character building, quoi.
Ouais, exactement. Ouais. Ouais. Du coup, ça la rend vraiment intéressante. Mais du coup, on revient très vite, du coup, en Lettonie. On reprend. C'est vraiment la suite exacte de l'épisode, comme s'il n'y avait pas eu d'interruption, finalement, à part cette séquence de flashback, ça aurait pu être la continuité directe de l'épisode précédent. Et du coup, en fait, on comprend hein, que le Wakanda souhaite récupérer en tout cas Zemo, hein, qui était responsable, pour rappel, de la mort de leur roi dans Civil War. Et du coup, il y a cette confrontation là où du coup, Bucky lui, il explique qu'il a besoin encore de Zemo pour résoudre, on va dire, cette histoire de Flag Smasher.
Et il y a le gros combat qui est pas mal foutu. C'est à ce moment, hein, le combat avec les Dora Milaje.
Non, pas du tout. Justement, à ce moment-là, ouais, elle lui laisse du temps, elle leur laisse du temps, ok, avec Zemo, voilà.
Et il y a toute la partie avec Carly où il y a l'enterrement.
Ouais, voilà, c'est ça. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont appris qu'il y avait cette fameuse on en parlait la dernière fois, Donia Madani. On comprenait pas très bien qui était ce personnage-là. Donc là, on apprend un peu plus. C'est assez bateau, mais c'est effectivement une tête spirituelle, on va dire, de ce groupe de réfugiés qui a pris sous son aile Carly et puis les autres Flag Smashers. Donc elle a un rôle, on va dire, un peu de guide dans cette communauté-là. Et donc, comme elle est décédée, il décide de s'y trouver, on va dire, à l'endroit où il peut y avoir un semblant de cérémonie, parce qu'il pense pouvoir contacter les Flag Smashers de cette manière-là. Donc effectivement, tu parlais d'épisode plus lent et effectivement, il y a quelque chose dans cet épisode, c'est qu'il y a des allers-retours entre différents groupes. Donc on passe un petit peu, on montre un peu les Flag Smashers, on montre un peu effectivement les trois et il y a beaucoup de discussions. Donc c'est là, on va à nouveau avoir pas mal de discussions autour du symbole, du super soldat. Donc c'est là où il y a effectivement toutes ces discussions avec Zemo. Qui explique à nouveau son point de vue. C'est vrai qu'il l'avait déjà un petit peu mentionné avant, mais là, c'est un peu poussé justement sur effectivement le danger que peut représenter un super soldat, les personnes à pouvoir finalement. Il va y avoir plusieurs allers-retours.
Les questions de symbolisme, de suprématie et de nationalisme et d'extrémisme. C'est marrant quand même de voir Zemo qui... il est quand même... C'était un membre de Hydra, on est d'accord, qui parle d'extrémisme et de suprémacisme et de nationalisme.
Non, je suis pas sûr qu'il était membre d'Hydra. Hein.
Enfin, peut-être pas, en fait.
Il est présenté comme, effectivement, quelqu'un qui a subi, finalement, les événements de Sokovie.
Ah non, t'as raison, ouais. Okay. D'accord.
Bon, après, on dit pas comment est-ce qu'il a eu sa fortune, mais j'ai cru comprendre qu'il avait des liens, pour le coup, avec les nazis, mais j'en suis pas sûr à 100%.
Je pense pas. Il disait, je suis un baron, tu vois. J'ai... Okay. Et d'ailleurs, c'est marrant de penser qu'un baron, c'est très riche, mais parce que c'est pas forcément le cas du tout. Mais oui, c'est vraiment le bas de l'échelle. Mais bon, peut-être qu'en Sokovie, c'est les barons qui ont tout le pouvoir et l'argent. Mais
ouais.
Donc non, effectivement, a priori, il est peut-être justifié. Moi, je continue à trouver que j'ai trouvé que la première partie de cet épisode était la plus faible de très très loin. Et en fait, c'est à chaque fois qu'il y a Zemo, je trouve ça très moyen. Je trouve que ils ont complètement raté Zemo dans l'épisode 3 et dans celui-là. Et je me demande à quel point ils n'ont pas changé un petit peu le rôle de Zemo, parce qu'on sait qu'il y a eu une réécriture de la série, parce que les Flag Smashers étaient censés vouloir diffuser un virus, sans doute. Il y avait une histoire d'épidémie, comme on l'avait mentionné à un moment. Et je me demande si ça n'a pas été un peu réécrit et un peu refilmé, ou je ne sais pas. Et donc, c'est pour ça que cette partie est un peu plus boiteuse. Mais l'épisode, à part ce premier tiers, je dirais, a quand même reprend du poil de la bête. Et je trouve que quand on arrive à l'enterrement de Donia Madani, ça redevient un peu plus intéressant, quoi.
Mais en fait, c'est là que va intervenir du coup Captain Whiskey et Battlestar. Du coup, ils vont effectivement retrouver Carly et au moment où ils vont effectivement se rendre là-bas, c'est là où ils sont rejoints par effectivement les Captain America et Battlestar. Et c'est là que ça décolle, parce que il y a la confrontation, effectivement, le dialogue entre Sam et Carly, que pour le coup j'ai trouvé vraiment assez mauvais, en fait. Et ça, c'est une problématique, moi, que je retrouve souvent, en fait, dans les méchants de comics. C'est vrai que c'est assez régulier, mais tu sais, ce sont ces méchants qui ont des on va dire des intentions initiales valables. D'ailleurs, Sam lui dit, oui, je suis complètement d'accord avec toi, mais c'est les façons, tu sais, c'est la façon d'y arriver où je suis pas d'accord. Et en fait, le problème que je pense déceler derrière ça, c'est que on essaye de donner des intentions initiales louables, du coup, à des terroristes. Mais j'ai pas l'impression que les scénaristes, ceux qui écrivent ces personnages-là soient convaincus
des intentions louables de base,
que ces intentions soient vraiment louables, et se forcent finalement à les mettre dans des discours un peu légers, pas forcément très intéressants, pour pouvoir justifier que ça soit des méchants et que du coup il faut absolument les arrêter, tu vois. Du coup, ça, je trouvais que c'était assez faible, mais en tout cas ça permet aussi de voir il y a
Plutôt
monter en puissance. Ouais, vas-y.
Sur le point de Sam, je trouve que effectivement sur Carly, c'est un peu boiteux. Comme on le disait il y a un ou deux épisodes, le moment où elle devient vraiment méchante, où elle bascule, c'est genre oh, mais ils ont fait un truc à Donia Madani, et tu on sait même pas qui c'est, on l'a vu une seconde, c'est un petit peu artificiel. Mais par contre, pour Sam, à la fois la discussion avec Zemo et la discussion avec Carly, je trouve que ça construit bien le personnage de Sam et qu'on comprend pourquoi lui est digne ou serait digne d'être un Captain America et pas John Walker, parce que tous les deux sont des personnes fidèles, droites, tu vois, qui sont au service du plus grand bien, en quelque sorte, enfin en théorie en tout cas, la ligne directrice. Mais lui a une certaine moralité interne, une rigueur interne que Walker n'a pas, et je trouve que la discussion avec Zemo et la discussion avec Carly construisent Sam par opposition à John Walker plus que construisent vraiment Zemo et Carly, qui sont finalement un peu accessoires.
Et c'est bien que tu dises ça, parce que justement sur cette séquence de la discussion, on a le parallèle effectivement entre un Sam qui veut discuter, qui veut essayer de résoudre le conflit par justement convaincre, on va dire, idéologiquement son adversaire, donc Carly, et c'est entrecoupé par des séquences où on voit justement John Walker dans une autre salle, quoi, qui eux ils attendent ouais.
Il avait donné 10 minutes à Sam, et voilà, en fait il y va en plein milieu, quoi.
Il envoie vraiment il, non seulement il y va en plein milieu, mais en plus on le voit vraiment travailler, quoi. C'est-à-dire qu'il est, il tient pas en place, il est au bord de l'explosion, quoi. Là, il est en train de, enfin, c'est un peu cette séquence-là. Je trouve que ça va peut-être un peu vite sur ce personnage parce que finalement, il a donné 10 minutes, il peut les, tu vois, il aurait pu,
Il peut donner 10 minutes. Là, il y a vraiment quelque chose. Et c'est, je crois que, je sais plus si c'est à ce moment, mais il y a un moment où Bucky dit, non mais je sais, je reconnais quelqu'un de barré. Parce que moi je suis barré aussi, mais il dit genre je reconnais quand quelqu'un est barré, c'était peut-être il y a un ou deux épisodes, et il a décelé en fait cette instabilité qui, je suis d'accord, est quand même, arrive quand même un petit peu vite. On s'est pas justifié, autant il était très équilibré, Walker, jusqu'à maintenant. Là, le fait qu'il aille interrompre le meeting alors que tout se passait bien, et que Sam avait une discussion hyper entre guillemets constructive, tu vois, les collaborateurs, oui, il y a eu un meeting très constructif. On vous fait un compte-rendu par email après le meeting, tu vois, ça aurait pu se terminer comme ça. Et non, il vient tout bousculer sans aucune raison, en fait, je suis d'accord.
Et du coup, là, c'est bagarre, et là, c'est effectivement, on rentre quasiment dans un peu un tunnel d'action, parce que il y a pas mal de personnages qui sont sur place, ce qui va se passer, c'est que Zemo va... détruire les sérums qui sont avec Carly. D'ailleurs, cette séquence, je la trouve bien. Alors, du coup, moi, c'est vrai que j'ai pas donné mon avis sur Zemo. Zemo, dans cet épisode, je le trouve assez bien, en fait. J'aime bien son discours, ce super soldat, et je trouve qu'il est bien amené, tout en montrant justement, et c'est pointé par, je sais plus si c'est par Bucky ou par. Par ça, mais qui son discours a aussi des faiblesses. Il montre aussi une certaine mégalomanie de son côté. Et du coup, on le voit quand même hésiter sur le sérum. Enfin, je sais pas ce que tu as pensé de cette séquence.
Moi, j'avais pas l'impression.
Moi, il y avait vraiment cette fraction de seconde où j'ai senti le. Enfin, tu vois, genre le. Peut-être, et si je le prenais, tu vois. Et je trouve que ça renvoie bien après à ce qu'il va demander. Il va poser la question plus tard à Sam, c'est si jamais t'avais le sérum, est-ce que tu le prendrais ? Et Sam qui répond, genre, du tac au tac, non, ça m'intéresse pas. Et où Zemo va dire, ok, d'accord, t'es quelqu'un de bien. Et je pense que ça. Le fait que lui sait qu'il a hésité, et
Ouais.
J'ai l'impression que peut-être. C'était volontaire, quoi.
C'est possible. C'est possible. Je dirais... je suis d'accord. Le seul truc, moi, c'est que je trouve ça presque dommage qu'ils aient cassé tous les trucs de sérum, parce que c'est vraiment le moyen de virer ce problème du MCU, genre s'il y a des morceaux de sérum, enfin des capsules de sérum qui se baladent. Évidemment, ça veut dire qu'il peut y avoir plein de super soldats en plus. Là, c'est un peu facile, mais bon, c'est quand même justifié par Zemo, quoi.
Ouais, et puis du coup, il en oublie un, et évidemment,
John Walker
va lui se le mettre de côté. Alors, John Walker, plus ça va, plus je le trouve incroyable. Donc, l'acteur, c'est... Je suis vraiment pas bon en nom d'acteur, mais c'est...
Tu l'as pas, toi, le nom j'ai oublié le... Bon, John Walker, Mr. Whiskey, Captain Whiskey, on va le retrouver.
Voilà, c'est ça. Même si ça va un peu vite dans son instabilité, etc., je le trouve vraiment, vraiment très, très bon là-dedans, quoi, dans ce registre-là. Ouais. Et la suite, je trouve que ça se démentit pas, quoi.
Ouais.
Mais du coup, voilà, il y a cette confrontation qui tourne mal, où finalement, après, on revient quasiment un peu au point de départ, c'est-à-dire les gens sont à l'hôtel, enfin Sam et Bucky et Zemo sont à nouveau dans leur hôtel, etc. Le but, ça va être d'essayer de refaire du coup un meeting à nouveau, cette fois-ci on espère sans Captain America pour envenimer les choses.
C'est Wyatt Russell, l'acteur.
Wyatt Russell, qui est du coup le fils de quelque chose Russell.
Certainement, mais je savais pas, c'est un fils d'un autre acteur.
C'est ça.
Russell Crowe, non, c'est pas lui.
Ouais, non, c'est pas lui.
Bon, ok, je vais essayer de retrouver la bio. Et donc, à l'hôtel, c'est là le combat avec les.
Russell. C'est le fils de Kurt Russell.
Ah, c'est le fils de Kurt Russell, d'accord.
Et oui, okay, maintenant que tu le sais, tu le verras.
Tout à fait, dans sa tête, dans ses yeux. Tout à fait. Ok, et donc là, oui, je sais plus, c'est à l'hôtel et c'est là qu'il y a.
Ouais. Et c'est à ce moment-là qu'il y a effectivement, du coup, alors Captain America qui rentre, qui dit bon, c'est fini vos conneries, Zemo, il retourne en prison, etc. Et c'est au même moment qu'effectivement les Dora Milaje débarquent dans une superbe scène pour le coup.
Elle était bien cette scène de combat.
Ouais. De combat en intérieur, on va dire en milieu réduit, parce que du coup, ils sont quand même dans une chambre, dans un salon d'hôtel, quoi. Et où John Walker va se prendre un peu une humiliation. J'ai revu la scène plein de fois, c'est vraiment pas sympa ce qui lui arrive.
Ouais.
Et il se fait vraiment ridiculiser pour le coup, et il se rend compte que les gens n'ont pas forcément besoin de sérum pour le battre. Quoi.
Alors il dit après dans sa discussion meurtrie avec Battlestar. Mais c'était même pas des super soldats, tu vois, c'est vraiment, mais je vois rien, et en plus ces insécurités et tout dans lesquelles ils s'effondrent, quoi. Effectivement, le combat est très sympa. Il y a la scène où Ayo enlève le bras de Bucky avec ses trucs à la... Quoi, c'est Ken le survivant ou Ip Man, tu vois.
Oui, elle appuie sur les
points sensibles. Voilà. Et le bras qui tombe, c'est marrant. Et Zemo s'enfuit comme
aussi,
un...
Il avait l'air aussi choqué que moi. Enfin, moi, j'étais
vraiment genre... Mais...
Qu'est-ce qui se passe, quoi ?
Et puis Zemo s'enfuit comme un méchant de Scooby-Doo. et donc, tout le monde se calme et ils se séparent plus ou moins bons amis. Et effectivement, après, c'est... Il retrouve encore les Flag Smashers. Et là... Ouais. Ah oui, il y a eu cette scène donc, de discussion entre... Merde, comment il s'appelle Battlestar
Battlestar.
Désolé, j'ai d'autres préoccupations en ce moment, hein, comme vous le savez. Mais, mais elle s'appelle... S'il ne s'appelle pas Couche Biberon ou un truc comme ça, j'ai plus de mal à retenir. Mais... Cette discussion où tu comprends que Walker est en train de dire est-ce que je devrais prendre le sérum ou pas sans le dire parce que Battlestar sait pas. Et donc le jour suivant, combat avec les Flag Smashers encore dans cette nouvelle cachette qu'ils avaient trouvée.
C'est ça.
Et ça commence normalement, mais à un moment, quand on voit que Captain Whiskey envoie le bouclier dans un mur et qu'il se plante, pas juste un petit peu, mais genre, il rentre 40 cm dans le mur, tu te dis
Ouais.
Ok, d'accord, ok, très bien, effectivement.
Et j'étais pas encore sûr, hein, je me disais okay,
non, moi non plus, moi non plus.
Clairement, là, on veut montrer qu'il est fort, mais est-ce qu'il aurait pas été capable de le faire avant on a encore des doutes, là.
Ouais, tout à fait. Et donc, vous le savez, combat qui continue et Battlestar périt dans cette scène tragique. Et là, ça fait péter les plombs complètement à John Walker. Et on arrive à la scène vraiment hyper forte de l'épisode. Et possiblement c'est de l'épisode, j'allais dire de la série, mais de l'épisode...
Ouh. En tout cas, ça va être un plan qui va rester, je pense. Hein, parce
clairement,
que
oui.
Ce plan, du coup, il décapite de colère un...
Je ne sais pas s'il le décapite, mais... Tu crois qu'il l'a carrément décapité C'est possible.
Ouais. Bah, vu le sang sur le bouclier comme ça... Moi,
ouais, enfin, en tout cas, soit il le décapite, soit il lui écrabouille la gueule avec le bouclier. Ouais. Et dans tous les cas, c'est pas joli, quoi. Et évidemment,
du coup, t'as pensé quoi, toi, de la mort du coup de Battlestar, ça t'as été surpris, choqué ou parce que moi j'étais vraiment choqué là.
Je pensais pas qu'il meure, mais j'étais encore à me dire ah mais attends peut-être qu'il est pas vraiment mort, vite appeler les médics, tu vois, on est quand même dans un film de super-héros où on sait jamais. Ouais. J'étais pas hyper convaincu ou interpellé par ça. Je trouve que c'est dommage de supprimer le personnage. En même temps, ça commence à faire beaucoup de Captain America et assimilé.
Ouais.
Du coup, là, tout le monde est un Captain America, soit parce qu'ils sont effectivement Captain America, soit le pote de Captain America, soit parce qu'ils ont des super soldats. Ça commençait effectivement à faire beaucoup, donc je peux comprendre qu'ils s'en débarrassent.
Fait, dans... dans ces films-là, que ce soit les films au niveau Captain America, donc on a quand même régulièrement l'occasion de voir des humains normaux se battre contre des super soldats. Hein. Mm. On les voit se faire envoyer au bout de la pièce, contre des murs, etc. Et donc, c'est quelque chose qu'on voit. Et donc, c'est vraiment le craquement là, contre le poteau. Ça m'a vraiment sorti de cette insouciance entre guillemets de bon il se tape, ah oui. c'est quand même des comics et puis c'est rigolo, enfin c'est voilà, c'est juste des combats, et là moi ça m'a un peu sorti de ça et j'étais oh quoi, enfin genre vraiment no way, qu'est-ce qui se passe, enfin qu'est-ce ouais. qui se passe. Pour moi le registre en fait comics de la série avait un peu basculé à ce moment-là, quoi. J'étais pour moi on était vraiment passé dans un autre, tu vois, si tu le mets en relation avec ce qui se passe à Madripoor, quoi, quand tu regardes le combat de Sharon qui poignarde des gens, ça reste un peu le côté fun, tu sais, des combats, même si elle tue des gens, c'est festif, il y a des explosions, ouais. il y a Zimo qui met son masque, qui machin et tout. Là, je sais même pas s'il y a de la musique, enfin, j'ai l'impression que tout s'arrête, quoi. On entend clairement le craquement du cou, du dos de Battlestar. Et,
faut que je revoie l'épisode. Ouais.
Tu vois, moi, ça m'avait vraiment. J'avais trouvé ça assez brillant, en fait, de retour à la réalité, tu vois, un peu.
Ouais. C'est la première fois que je ne vois pas ces épisodes deux fois, en fait, parce que j'ai pas eu le temps, mais bon, faudra que je le revoie. D'accord, donc sur toi, ça a vraiment fait « Oula, merde, il se passe
un
truc
». Et d'ailleurs, en revoyant les épisodes, parce que je t'avais dit que j'avais adoré, je t'avais dit juste après que j'avais adoré l'épisode, et en fait, en le revoyant, je me suis rendu compte que bon, bah, quand même, l'épisode, c'est sa fin, en fait, qui m'avait marqué, et plus que finalement le reste, même s'il y a des chouettes scènes ailleurs. Ouais. Et moi, c'est là que tout d'un coup, ma hype en fait pour la suite s'est un peu envolée, quoi. J'étais waouh, il part sur un truc que je m'attendais vraiment pas pour le coup.
C'est sûr que ça, c'est un truc, et cette image dont tu parles à la fin de Walker vu en contre-plongée avec le sang sur le bouclier, elle est hyper, hyper forte. Et c'est encore plus vrai dans l'épisode suivant, et je veux qu'on ait le temps d'en parler de l'épisode suivant aussi, mais. C'est là, sans vouloir repartir dans les combats DC et Marvel un petit peu stériles, mais ce qui me plaît dans les films de Marvel, pour tous les défauts et les qualités d'ailleurs, c'est qu'ils se concentrent vraiment sur les personnages et qu'ils développent les personnages. Si John Walker avait été un méchant dès le début, bah bon, il tue quelqu'un, il y a du sang sur le bouclier, on s'en fout un petit peu. Là, avec tout le contexte de la série, la question de la justice, même si c'est fait un petit peu maladroitement, le symbole de Captain America, ce que c'est, ce qu'il représente, et puis bien sûr le passif du personnage sur les 23 films, ou je sais plus quand il est arrivé, 20 films où il était précédemment dans l'univers, ça veut dire que ça a un poids énorme ce qui vient de se passer. C'est pas juste quelqu'un, parce que des super-héros qui tuent des gens ou qui battent des gens, ça arrive tout le temps. Mais là, c'est beaucoup plus que ça. Et évidemment, je veux dire, je prêche des convaincus, je pense que tout le monde comprend que c'est beaucoup plus que ça. Mais c'est juste un élément qui me rappelle pourquoi les films et les productions Marvel, généralement, quand elles touche à ce genre de choses, fonctionne pour moi, là où d'autres productions, que ce soit DC ou les autres films Marvel qui ne sont pas faits par Marvel Studios, généralement n'y arrivent pas. Et c'est, je crois, souvent pas du tout une question d'action ou de super-héros, même si je trouve que l'action est évidemment importante et c'est le plaisir du truc, mais c'est vraiment une question de personnage. Et là, ça fonctionne à ce point parce que c'est bien construit. Donc... ouais, ça a clairement été un moment, et tu te dis, mais là, c'est un moment où c'est, oh putain, ok, d'accord, c'est la merde, là. Là, vraiment, c'est le bordel.
Et puis, il y a tout le monde qui a filmé, donc là, clairement, on s'attend, on se dit, ok, bon, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Parce que, est-ce que les États-Unis vont, vont retirer le rôle
ça pose plein de questions.
Captain America, enfin, voilà, est-ce que du coup, c'est ça, c'est que l'épisode d'après, tu sais pas si est-ce qu'il se passe vraiment juste après, est-ce qu'on va pouvoir voir les conséquences
justement
de ce truc-là, effectivement et... c'est ce qui sera le cas. Du coup, on sait déjà.
Voilà, puisque magie, comme on est en retard d'une semaine, on a quand même la meilleure excuse pour ça. On a directement la suite, l'épisode 5, Truth. Juste un petit mot pour mentionner qu'on commence à voir que Sharon Carter a quand même beaucoup de pouvoir et beaucoup de choses quand elle parle avec Sam pour traquer les Flag Smashers. On pourra demander se demander dans l'épisode là, 5 si c'est vraiment elle, le Power Broker. Moi, je pense que non. Mais... l'épisode commence, là il est un petit peu plus frais dans mon esprit, avec le combat assez sympa dans le hangar entre Sam, Bucky ouais. et John Walker, où ils veulent récupérer le bouclier, qui rappelle un petit peu le combat entre Captain America, Bucky et Iron Man dans à la fin de Civil War, évidemment. Bon combat, bien scénarisé, bien chorégraphié, je l'ai trouvé pas mal du tout. Et comme tu l'as noté, John Walker, il rigole plus là. C'est vraiment, il ouais. y va à fond et tu sens qu'il a pété les plombs complètement.
Enfin, pété ouais, les plombs. Là, il attaque pour tuer, hein. Enfin, clairement.
C'est ça. Et tu sens que, là encore, le jeu d'acteur de Wyatt Russell fait bien passer le truc. Tu sens que c'est genre la spirale, parce qu'il peut pas s'arrêter, parce que s'il s'arrête, il admet qu'il a merdé, et c'est pas juste qu'il a merdé, c'est qu'il a commis un crime qui va à l'encontre de ce qu'il croit, de ce pourquoi il se bat depuis de toute sa vie, quoi. Et je pense que vraiment ça, on le ressent pas mal, on ressent qu'il sait, quand il reprend le bouclier, il sait qu'il a merdé. Et tu sens cette dureté qui s'installe en lui, qui fait que il peut caler en avant, il peut plus s'arrêter, quoi. Donc, ouais. Et donc, on le ressent dans le combat aussi.
Ouais, ouais. Ce combat, je pense. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était peut-être le meilleur combat hein, de la série. Hein. J'ai vraiment été happé par le truc. On a l'impression. Enfin, les coups, on y croit. Effectivement, les coups ont l'air douloureux. Enfin, c'est un limite laborieux comment ils arrivent finalement à défaire John Walker à la fin en lui arrachant le bouclier,
en lui pétant le bras carrément,
en lui cassant le bras.
Et on voit d'ailleurs là encore, comme tu l'as noté, les ailes du Falcon qui sont décrochés, qui sont cassés en trois morceaux. Il récupère le bouclier et en fait le public ne sait pas où est le bouclier. Tout le monde pense que c'est John Walker qui l'a, mais bon, c'est la fin de ce combat qui m'a beaucoup plu aussi. J'ai trouvé ça très fort dans la chorégraphie et dans la symbolique. Et les utilisations du costume, enfin des ailes du Falcon sont bien, etc., etc. C'était pas mal foutu. Mais on peut passer, je pense, c'est même pas un procès, c'est au hearing, à l'audience.
Ouais, oui, c'est ça. C'est pas vraiment un procès, mais ouais, du coup, j'avais découpé hein, la suite en trois parties pour qu'on puisse parler de chaque personnage. Là, du coup, on arrive un peu dans l'après, dans l'aftermath, comme on dit. De cette traque de Carly et puis de cet événement un peu dramatique à la fin de l'épisode précédent. Et du coup, effectivement, on retrouve John Walker, en audience, où il apprend que, effectivement, il est démis du. Enfin, je pense pas qu'il l'apprenne là, mais il est démis des fonctions de Captain America et surtout, il est un peu. Alors, il évite le tribunal martial, mais du coup, il est renvoyé chez lui sans rien,
Ouais, je crois le terme, c'était genre « less than honorable discharge ». C'est genre, t'es viré, c'est pas que t'as commis une... Enfin, c'est comme il a eu des années de service tellement exemplaires, c'est genre, bon, c'est pas on te vire avec faute grave, mais t'es pas non plus, t'auras pas de pension, t'auras rien du tout. Quoi. C'est au revoir, merci, adieu. Et Walker, qui est vraiment pas content, qui commence à dire « Non, mais vous vous foutez de ma gueule, j'ai vécu ma vie pour vos mandats, enfin, pour en faisant ce que vous me disiez de faire. » Et il dit, je ne sais plus si c'est à ce moment, je crois, mais il dit « Mais je suis Captain America.
Ouais, »
Genre,
ça,
j'ai rien à foutre de ce que vous dites, moi, je suis Captain America, et voilà. C'est assez fort aussi, je trouve. Et puis, il y a plusieurs scènes qui s'enchaînent, plus ou moins, je ne sais plus si c'est chronologiquement comme ça, mais il y a ce fameux caméo de Valentina Allegra de Fontaine, qui est très connue pour être Madame Hydra, ce qui est... Alors, c'est le personnage qui va voir John Walker et qui dit... En gros, ce qu'elle dit, c'est « T'as bien fait de prendre le sérum. On est en train de faire une équipe un petit peu Black Ops. C'est peut-être les Thunderbolts qui sont des sortes d'anti-Avengers. » Mais je te passerai un coup de fil à un moment, tu ferais bien de décrocher. Je trouve qu'elle est bien. Beaucoup de gens ont dit qu'elle en fait un peu trop, mais je la trouve pas trop mal. Moi, dans le rôle, elle est genre... elle a un ton très différent des autres personnages de la série, et je trouve que ça fonctionne.
C'est un poil surjoué, mais c'est peu, ouais. le but, c'est aussi de faire comprendre à l'audience quel type de personnage c'est en très peu de temps. C'est-à-dire que là, c'est juste un échange. Et je pense que le but du jeu, c'est aussi qu'on comprenne quel type de personnage c'est. Et du coup, forcément, ça a un poil too much. Elle se retourne vite fait vers la femme du coup, de John Walker.
Ouais. C'est bien sa femme, hein, du coup. J'étais pas sûr que ça soit sa femme, mais c'est bien sa femme. Ouais.
Ouais, je sais pas, je pense pas que ça soit pour tout de suite cette histoire-là. Enfin, j'imagine.
Ah non, non, moi je pense que c'est dans longtemps. Oui, c'est un truc. Enfin, dans longtemps. C'est un truc qui pose pour la suite. C'est pas.
Ouais,
pour
parce
maintenant.
Que là, un épisode de la fin, je me posais la question si ça faisait commencer pas à faire vraiment trop de concepts et de personnages en plus depuis le début.
Non, non, moi je pense que c'est. Et donc pour les gens qui savent pas, en fait, Madame, tout le monde sait que c'est Madame Hydra. C'est un personnage qui est très annexe hein, dans l'univers Marvel, mais c'est pas un agent de Hydra en fait, c'est un double triple agent en fait. Elle est plutôt dans le Shield à la base, donc elle va pas recruter John Walker pour Hydra. Je suis sûr qu'elle travaille pour genre une agence secrète du gouvernement américain, possiblement avec comment il s'appelle le Major Ross, General Ross, Thunderbolt ouais. Ross. Possiblement avec lui, mais donc c'est tout le monde est accroché par le nom de Madame Hydra, mais c'est trompeur en fait. C'était un moment où elle travaillait pour Hydra en tant qu'agent double du Shield, mais sinon c'est un agent du Shield. J'ai oublié son nom, mais c'est un agent du Shield, son nom de code. Et puis John Walker va voir la famille de Battlestar, à une scène bien sûr un peu émouvante où il lui donne un petit peu la justification de ce qu'il a fait. Où ils disent il est notre fils et apaisé de savoir que son meurtrier a été dealed with. Et ouais, c'est une scène un peu émouvante, mais qui renforce John Walker dans ses convictions, j'imagine.
Ouais, et puis du coup, il se retrouve finalement il va vouloir en fait réaliser ce qu'il a annoncé, quoi. Finalement, il annonce à sa famille que la personne qui avait tué leur fils avait eu son compte, quoi. Ce qui n'est pas le cas en réalité. Donc, j'imagine que ça renforce effectivement sa motivation à se venger de Carly.
Ouais.
C'est comme ça, moi, que j'ai senti. Ouais, je sais pas trop quoi penser de cette scène. J'ai trouvé qu'elle réduisait un petit peu la force de... Parce que j'ai pas forcément été super convaincu, moi, par cet échange-là. Et je trouvais que ça cassait un peu le rythme de la série, mais bon, c'est bien aussi qu'on le traite.
Quoi. Parce que
c'est bien aussi qu'on le traite et puis qu'on voilà, que le pauvre Battlestar qui n'avait pas eu beaucoup de temps non plus d'écran, c'est bien aussi que le personnage, finalement, on traite effectivement qu'il avait des proches et que sa mort n'affecte pas que John Walker.
Tout à fait.
Et donc, c'est quasiment tout pour John Walker sur cet épisode-là. On peut tout de suite parler de la scène post-générique qui le concerne, où du coup, effectivement, suite à ces événements-là, il va se faire un déguisement de Captain America.
J'ai beaucoup aimé le terme de cosplay que tu as utilisé dans nos notes.
Il se fait un petit cosplay de Captain America, donc il se fait son propre bouclier à la main. Donc, je suppose qu'il n'est pas en vibranium, celui-ci.
Oui, j'espère qu'il va pas pouvoir l'utiliser comme le bouclier du vrai Captain America, parce que sinon, quelle utilité d'avoir du vibranium si n'importe quel capitaine d'armée peut sortir son marteau et sa forge et se faire un petit bouclier de Captain America.
Et par contre, ce truc de se faire un costume de Captain America, je trouve que c'est l'étape, c'est encore une étape franchie hein, au niveau psychologique pour le personnage, parce que autant camper sur le fait que oui, j'ai bien fait de faire ce que j'ai fait, j'ai tué un terroriste, j'ai vengé aussi la mort de mon coéquipier, c'est une posture, on va dire, même si on la cautionne pas, on peut, on va dire, la comprendre. Moi, sa réaction suite à la mort de son meilleur ami, de poursuivre ces mecs et d'en massacrer un. Je veux dire, il y a un univers de compréhension où je dis, ok, je comprends pourquoi est-ce qu'on pourrait faire ça, tu vois. Mais là, par contre, ça va un peu au-delà, c'est-à-dire qu'il y a un truc vraiment malsain là dans le fait de se refaire un bouclier, de se faire un costume, de mettre ces médailles d'honneur sur le bouclier. De les incruster là on passe vraiment on bascule vraiment dans un méchant un peu plus je sais pas si c'est le bon terme mais psychotique tu sais vraiment il y a quelque chose il y a un truc mentalement là qui s'est passé et donc voilà
et alors, j'aime beaucoup le fait de prendre le sérum, comme ils disent depuis le début, augmente les caractéristiques de la personne. Et donc, ça explique complètement qu'à partir de ce moment, il a un petit peu pété les plombs, quoi. Il a commencé à vriller. Donc.
Ouais, finalement, ça a augmenté ses instabilités.
C'est ça.
C'est ce qui s'est passé, quoi.
Donc, on a de l'autre côté. On a Bucky qui va retrouver Zemo. Il y a une scène assez courte qu'on peut évoquer. Et puis après, il y a des moments hyper importants avec Sam et puis Bucky.
Je me suis posé la question, pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait s'évader dans l'épisode d'avant? Tu vois, si c'est pour le retrouver aussi vite et comme ça, j'ai trouvé ça un petit peu étrange. Mais bon, pourquoi pas
Ouais, c'est un petit peu bizarre, mais je crois que... Je sais pas, en fait, mais je crois que Zemo s'est laissé rattraper, en fait.
Oui, clairement.
Et tu sens
qu'il attendait plus tôt et tout ça.
C'est ça, ouais. Et j'ai trouvé justement dans cette scène un petit peu plus du Zemo de Civil War, assez profond, assez touchant, que j'avais pas du tout trouvé dans le Zemo qui danse dans la boîte de nuit à Madripoor. Bon, cette scène était marrante, c'était pas ça le problème, mais. Effectivement, donc Bucky arrive. Et au début, j'ai pas compris pourquoi il lui met le flingue en face de la tête et il tire. Et en fait, il y a pas de balle dedans. Et je trouve, après un tout petit peu de réflexion, que c'est assez fort, en fait, comme symbole pour lui-même. En fait, c'est pour lui, je crois, qu'il le fait, Bucky. C'est que maintenant, je ne suis plus ça. Et même si je le fais, c'est pas... Comment dire ? C'est vide. C'est pas... Départi de toute cette symbolique du symbole du tueur au point que mon flingue ne tue plus en quelque sorte.
C'est valable aussi. Enfin, je pense que le fait que ce soit Zemo, c'est important parce qu'il y a eu ces échanges en début de série où Zemo lui dit que t'as toujours quelqu'un à la tête, t'es toujours là quelque part, tu sais, c'est toujours en toi. Ces histoires-là, et puis à plusieurs reprises, je crois qu'il mentionne le fait que c'est.
Bien sûr.
Tueur, etc. Donc, je pense qu'il y a aussi ce besoin-là de lui démontrer à lui qu'il a tort et que...
Même plus que ça, Zemo est celui qui l'a retransformé en soldat de l'hiver alors qu'il menait une vie relativement... Enfin, pas normale, mais en tout cas un petit peu plus paisible. Ouais. Et c'est Zemo qui lui a refait faire toutes ces horreurs qui lui donnent des cauchemars. Donc, le fait de ne pas le tuer, c'est effectivement symboliquement et concrètement extrêmement fort et important. Donc, on est d'accord. Et donc, les Dora Milaje arrivent et elles vont l'emmener au raft qui est sous le commandement de... j'ai oublié son prénom, mais Thunderbolt Ross.
Ross.
Et du coup, si Val travaille avec Ross, peut-être que, tu vois, il y a quelque chose... Beaucoup de gens ont dit, les Thunderbolts, peut-être qu'il y a Zemo qui va travailler avec John Walker, ce qui serait étrange parce qu'il travaille avec un super soldat, mais bon, en même temps, il a bien travaillé avec Bucky aussi quand c'était nécessaire, donc pourquoi pas. Mais bon.
Le chemin vers lequel part John Walker, j'ai du mal à le voir maintenant.
Récupéré par... je le vois. Disons qu'il faut voir ce qui va se passer dans l'épisode suivant, parce que dans l'épisode suivant, ça risque d'être le bordel total, et il risque de se faire arrêter, John Walker. Tu vois, parce qu'il est là illégalement, il va aller à New York pour essayer de faire ce qu'il veut faire illégalement. Je pense qu'il va se faire arrêter et puis se faire mettre sur le payroll des Black Ops Evil Super Soldats de l'équipe de Thunderbolt Ross, qui va en plus faire une sorte de Grey Hulk. En prenant le sérum lui-même, tous ces trucs-là. Quoi. Et Sam va voir Isaiah pour ouais. qu'il lui explique en fait ce qui s'est passé, parce qu'il comprend toujours pas ce qui s'est passé. Et bah, ouais, je te laisse.
Ouais. Bah, là, pour le coup, là, moi, c'est une des meilleures scènes hein, de la série pour moi. Je trouve que l'acteur qui incarne Isaiah est possédé ouais, par ce rôle-là. Enfin, je trouve qu'il y a une espèce de sincérité à chaque fois. Je trouve ça magistral, c'est toutes ces séquences à ce personnage-là. Et du coup, effectivement, là, il y a une discussion et que je trouve super intéressante parce que du coup, elle va mettre des mots explicites sur des choses que je pensais pas arriver explicitement pour le coup dans la série, même si on en a déjà un peu parlé, hein, surtout justement la problématique du traitement des Noirs aux États-Unis, qui est montrée à différents endroits, plutôt au début de la série. Et là, il y a une claire discussion sur effectivement ce que ça peut vouloir dire pour un noir américain d'incarner un symbole comme celui de Captain America, et où on a effectivement deux visions du monde pour le coup qui vont un peu s'échanger. C'est qu'effectivement, on a la vision de Isaiah qui, lui, a vraiment subi des choses effroyables de la part du gouvernement. Et effectivement, il y a clairement pour moi la référence que tu avais déjà évoquée. Au deuxième épisode, je crois que c'était au deuxième épisode qu'il apparaissait, que tu avais clairement évoqué sur effectivement l'histoire de l'injection de la, c'est quoi, c'était
syphilis.
C'est syphilis sur des Nord-Américains pour effectivement voir un peu comment évoluer la maladie. Sauf que là, du coup, on remplace par un sérum dont on ignore finalement les effets sur des humains, et donc ce personnage-là va perdre finalement ses compagnons. À cause du sérum, parce qu'effectivement, ça marche pas à tous les coups. En l'occurrence, ça a marché sur lui et il va se faire du coup emprisonner et être traité comme un cobaye quasiment toute sa vie par des gens qui vont essayer de comprendre pourquoi ça a fonctionné sur lui et pas sur d'autres.
Et ça va. Et du coup, ça va même encore plus loin. Il y a il décrit cet événement pendant la guerre. J'imagine que c'est la guerre du Vietnam, je crois. Je me souviens plus bien, mais
c'est Corée, non ? Je sais plus.
Corée, peut-être. Ouais, un petit peu plus tôt alors. Mais il parle de ces deux compagnons qui étaient prisonniers et qui étaient derrière les lignes ennemies. Et lui, il est allé pour les récupérer. Il a réussi à les récupérer. Et quand il est revenu, on l'a mis en prison et on a expérimenté sur lui, ce qui clash énormément avec la scène de Captain America 1 où Steve Rogers va derrière les lignes ennemies. C'est quasiment la même chose, et où il est accueilli en héros, ce qui explique l'aigreur et la rage, la frustration d'Isaiah. C'est Bradley, ouais. Je crois.
Et comme Captain America, il s'est retrouvé du coup séparé, on va dire, de son amour de l'époque, qui elle, ça, il y a vraiment, je trouve qu'il y a vraiment le miroir pour le coup avec le personnage de Carter, etc. Donc il y a vraiment, il y a un effort narratif pour essayer de mettre effectivement le plus de similitudes possible entre l'histoire d'Isaiah et celle de Steve Rogers, mais avec du coup effectivement le twist que c'est un personnage noir et que du coup il a été traité complètement différemment par le gouvernement. Et du coup, il y a cette vision-là de l'Amérique qui affronte, on va dire, un Sam qui, lui, est dans la partie un peu plus, on va dire, idéale de cette partie de la discussion. Et où, du coup, je trouve ça très bien que ça soit inconciliable, si tu veux. C'est-à-dire que ils partent, clairement, lui, il a ses doutes, hein, et d'apprendre ce qui s'est passé, ça le chamboule. Mais tu sens qu'il est quand même pas sur cette voie-là, et que il respecte on va dire cette parole d'Isaiah. Il la comprend aussi, et il va pas. Tu vois, je pense pas qu'il ait besoin de convaincre Isaiah de quoi que ce soit. Et ouais.
C'est pas le moment de se lancer dans une discussion Twitter où tu avais cliqué pourquoi l'autre a tort.
C'est
ou pas.
Ça, c'est ça.
Ouais,
c'est
t'écoute et tu comprends, quoi.
Et c'est ça. C'est vraiment plus de l'écoute, effectivement, qu'une discussion en réalité. Mais et du coup, ça va aussi. Je trouve que ça lui donne aussi des billes pour lui formuler ce que lui, il aimerait. Vis-à-vis de ce symbole et de ce que ça peut vouloir dire, d'être Captain America en étant noir. Et du coup, bah, suite à ça, il va retourner en Louisiane.
Juste une dernière chose. Ça va même encore plus loin, parce qu'il lui dit, Isaiah, avec toute la force de son témoignage et la difficulté de l'écouter en face dire ce genre de choses, et en plus, quand, évidemment, je pense que ça va sans dire, mais je vais le dire quand même, on ressent ce genre de témoignage très différemment quand on est un blanc comme moi et quand on est un noir comme tous les noirs. Et encore plus américain, mais je pense que c'est relativement universel. D'ailleurs, Isaiah le dit, il dit « Tous les hommes noirs savent de quoi je parle. Tous les hommes noirs comprennent ce que je veux dire. » Et il lui dit directement, en lui parlant à Sam, il lui dit « Si tu prêtes allégeance à ce bouclier, je ne sais plus ce qu'il dit exactement, mais il dit tu te trahis toi-même ou un truc du genre, tu vois. » Donc, il lui dit en gros « Tu ne peux pas être Captain America. » Et du coup, on comprend à quel point Sam, dont on sait qu'il va devenir Captain America, a besoin de décider pour lui-même. Et on va en parler dans un instant, mais il y a un autre moment assez fort que je trouve assez fort dans la discussion avec Bucky. Mais oui, c'était juste pour préciser, Isaiah lui dit non mais fuck tout ça quoi, et on comprend évidemment pourquoi. Et par rapport à ce qu'on disait il y a quelques épisodes, moi qui espérais un petit hashtag not my captain, tu vois, pour signifier qu'il y a une question importante dans les relations ethniques aux États-Unis et dans la problématique d'avoir un Captain America noir, je peux dire qu'en voyant cet épisode, j'ai été servi, quoi. Là, c'est plus genre on fait des petits pas autour du sujet, c'est en plein dedans, très clairement dit, et j'ai trouvé ça assez bien et assez courageux finalement de le dire comme ça. D'autant plus que ils le font d'une manière qui est complètement indéniable, à moins d'être de la plus grande mauvaise foi qu'on puisse, et je suis sûr qu'il y a des gens qui vont le faire, mais parce que l'expérience de Tuskegee que tu évoquais avec la syphilis, qui s'est terminée dans les années 70, donc c'est pas il y a si longtemps que ça, et c'est un parallèle hyper clair et factuel. Donc, c'est pas juste « Ah, dans le monde de Marvel, il s'est passé ça avec Isaiah », c'est le traitement de l'Amérique et plus largement peut-être du monde occidental, des personnes de couleur noire ou racisée en général. Et c'est un indictment, une constatation plus qu'une condamnation, qui est très claire. Et je trouve ça assez bien fait, quoi.
En tout cas, pour moi, c'était inattendu que ça arrive finalement dans du Disney Marvel, quoi. Mmh. Donc moi, cette scène-là, je pense que la discussion, elle a tourné un peu dans ma tête, et je trouve ça vraiment cool que cette séquence existe, quoi.
Ouais, je voulais te poser la question, effectivement, parce que, comme je le disais, on le ressent pas de la même manière quand on est blanc ou noir, mais du coup, toi, tu trouves que ça fait effectivement authentique, que ça fonctionne, quoi. C'est pas une soupe.
Ouais. Ça reste
un truc de super.
Ça reste intégré à un divertissement, on va dire, voilà. Ça reste du Marvel, hein. C'est-à-dire que je pense que le discours, le média fait partie du discours et du coup, c'est intégré là-dedans. Mais c'est, voilà, je m'attendais vraiment pas à ce qu'ils aillent jusqu'à expliciter tout ça. Donc, voilà, c'est clairement un très bon point pour cet épisode-là. Et du coup, là, en reparlant, j'ai repensé aussi à la séquence au tout début de la série où il y a une discussion, du coup, aussi entre deux noirs, hein, du coup, entre Sam et Rhodey au musée, tu sais. Et il est aussi question, du coup, de savoir si, tu vois, il a refusé le bouclier, donc il s'apprête à... Enfin, Rhodey essaie de le convaincre que justement il est à la hauteur du symbole, etc. Maintenant qu'il a le bouclier, on a un personnage qui vient lui dire non, mais touche pas à ça, malheureux. Et du coup, je trouve que cette évolution et ces différentes interactions comme ça, je trouve qu'elles sont je trouve que global ça rend super bien pour montrer effectivement les conflits internes que peut avoir Sam, quoi, sur ce sujet, puis ça va continuer après avec effectivement la discussion avec Bucky, comme tu l'as dit.
Ouais, donc on a bien compris que on sait pas où sont les Flag Smashers, donc il y a beaucoup de temps qui se passe. Sam retourne en Louisiane, il va aider sa sœur, il décide de réparer le bateau avec l'aide de toute sa communauté. Il y a un truc que je trouve assez américain, justement. C'est genre, on retrouve souvent cette image de la vie communautaire. En plus, aux États-Unis, il y a beaucoup plus de communautés, peut-être, que chez nous. Mais donc, avec l'aide de toute sa communauté, ils vont réparer le bateau pour pouvoir s'en sortir. Et il y a même Bucky qui les rejoint et qui file un coup de main aussi. Et il y a des moments effectivement assez, je vais pas dire émouvant, c'est peut-être un petit peu trop, mais il y a le montage où on travaille sur le bateau. Ouais. On peut peut-être le passer rapidement, à moins que tu aies des choses à dire dessus. Et après, il y a
Non. C'est surtout des petites blagues, des petits, ouais. Des petites séquences un peu plus légères.
C'est ça. Après ce qu'on on respire un peu, ouais. Après.
Ouais.
Et il y a le truc marrant où Bucky flirte à moitié avec voilà. La sœur de Sam. Bon, voilà, c'est rigolo. Les scènes ouais. Marrantes où il n'utilise pas son bras en métal pour soulever quelque chose de lourd. Et il dit, mais pourquoi tu n'utilises pas ton bras? Il dit, bah, j'y pense pas toujours. Et puis, en plus, je suis droitier, donc tu vois, c'est marrant. Et puis, il y a la discussion où, enfin, on sent que Sam a décidé, bon, bah, OK, je vais m'y coller alors.
Bah, c'est ça. Donc là, il s'entraîne avec le bouclier à le lancer. Voilà. Et effectivement, il se retrouve avec, avec Bucky et ils vont justement bah, rediscuter de tout ça, quoi. Faire un peu le bilan sur effectivement le fait de devenir Captain America ou pas. Et puis, un moment qui est important, c'est aussi effectivement bah, ce moment où Bucky va dire que quand ils ont, parce qu'apparemment ils ont discuté de à qui allait revenir le bouclier
avec Steve.
Avec Steve, et il s'excuse un peu, quoi. Enfin, il s'excuse en disant on n'avait pas du tout imaginé de ce que ça pouvait représenter de te donner ça à toi. Et bah, voilà, enfin, tu vois, c'est ce que tu disais tout à l'heure en disant qu'en tant que blanc, on ne comprend pas forcément les choses. Et bah là, c'est à nouveau formulé, moi, c'est comme ça que je l'ai compris. J'ai compris ce que ça.
Ah bah oui,
cette phrase-là, Bucky, j'ai l'impression qu'il l'a dite, alors que bon, il le dit pas vraiment, mais c'est complètement ce qu'il dit, quoi. Et bah, c'était un peu enfoncer le clou par rapport à la séquence d'avant, et ça, tu vois, ça fait du bien d'entendre ça, en fait, quand on est racisé, effectivement, d'avoir l'acknowledgement, je trouverai pas le mot
l'admission.
Français, mais pour voilà, de dire oui, d'accord. Je peux pas comprendre et c'est ok et on est désolé et tu vois enfin je trouve que c'est un moment assez fort.
Ouais. Ouais. Moi je suis complètement d'accord avec toi. Je trouve simplement que je sais pas quand du coup Bucky a compris. Tu vois, il y a pas un moment. Lui, il a été en dehors de toutes ces discussions, de tous ces trucs. Peut-être qu'il l'a vu d'un petit peu loin ou qu'il y a réfléchi un petit peu plus quand il est retourné voir Isaiah Bradley ouais. Ou peut-être qu'ils en ont discuté en off caméra. Tu vois, avec Sam. Ouais. Mais j'ai trouvé que ça. J'ai pas trouvé qu'il a fait le travail personnel, Bucky, sur lui-même, pour arriver à cette. Parce que c'est quand même dur, tu vois. C'est pas facile de se rendre compte que. Ah bah oui, en fait, bah, je comprends pas, je suis pas dans cette situation, je peux pas savoir, même si on me l'explique, tu vois. C'est un truc qu'il faut avoir vécu. Et, mais bon, ça, c'est un détail.
Peut-être que sur le chemin du Wakanda, il y a des amis là-bas, il en a discuté.
Ouais, c'est possible. Et du coup, il y a à un moment dans cette discussion, Sam dit aussi, ça va peut-être te surprendre, mais ce qu'a dit Steve, on s'en fout, quoi. Ça a pas d'importance.
Ouais.
Et ça appuie ce fil rouge, ce principe directeur, en fait, pour Sam, qui est qu'il doit être lui-même et qu'il y a personne d'autre qui peut décider qui il va être. C'est d'ailleurs ce qu'il dit à Bucky. Il dit, c'est toi qui dois pas te prendre en main, mais qui doit décider qui tu dois être. Au début de la série, il pensait qu'il ne pouvait pas être Captain America. Maintenant, il se dit, bon, bah, peut-être que je peux faire ce travail qui va être difficile pour endosser avoir sur les épaules ce symbole. Mais j'ai trouvé ça très, très fort. Enfin, très, très fort. J'exagère, mais j'ai trouvé ça important qu'il dise, en fait, ce qu'a dit Steve, ça n'a pas d'importance. Ça, on s'en fout. Oui. Parce qu'on a tellement le symbole qui est une sorte de drapeau géant sur toute la série, dans le ciel de toute la série de Steve Rogers. Comme le disait Zemo, c'est un symbole, c'est presque sa parole est sacrée, sa personne est sacrée, c'est une sorte de figure christique. Et le fait que Sam dise « Non, mais il n'est plus là, Steve. Enfin, il ne dit pas exactement, tu vois, c'est ambigu comment il dit ça. Il est vraiment sur la lune.
Il dit Steve is gone, hein, je crois que...
Ouais, peut-être, mais je veux dire, c'est pas, il ne dit pas Steve is dead. Tu vois, il dit Steve is gone, non. Genre, il est parti sur la lune, peut-être, ça se trouve, on ne sait pas. Mais,
d'ailleurs, je me suis posé la question quand même, parce qu'ils n'ont pas... Enfin, tout le monde parle de Steve Rogers comme s'il était décédé. Hein,
bien sûr, mais s'il ne l'est pas, Sam et Bucky le savent.
Ouais.
Tu vois. C'est pour ça que la manière dont il le dit est important. Mais bref.
Mais du coup, je me demande s'il est vraiment là ou s'il n'est pas reparti ailleurs dans le temps, en fait.
On ne sait pas, on ne sait pas du tout.
De toute façon, on sait pas.
Il laisse la porte ouverte, de toute façon.
Oui, toujours.
Mais oui, le fait qu'ils disent donc ce symbole infaillible, ce qu'il a dit, on s'en fout, c'est nous qui devons prendre la décision aujourd'hui pour nous, j'ai trouvé ça fort, quoi. Et on a le montage avec. Sam qui s'entraîne, qui lance le bouclier, qui se retourne, qui se plante, qui... Et c'est marrant parce que quand Bucky attrape le bouclier, tu vois, il l'attrape et il bouge pas. Au début, quand Sam l'attrape, il est pas un super soldat. Donc, il l'attrape, c'est genre limite, il se fait emmener par le bouclier plus loin. C'est hyper dur pour lui qu'il n'est pas un super soldat. Et il commence à faire toutes ses galipettes comme Captain America pour l'attraper. J'ai trouvé ça sympa.
Et du coup, il a sa nouvelle armure aussi, donc qu'on n'a pas vu.
Qu'on n'a pas vu, mais oui, un cadeau du Wakanda par Truchon de Bucky, qui va sans doute être aux couleurs de Captain America, ou peut-être pas avec le bouclier qui ressortira d'autant plus. J'ai hâte de le voir, évidemment, et puis j'ai hâte de voir ce qu'elle peut faire de plus que son armure, qui, entre parenthèses, il a laissé à Joaquim Torres, qui...
C'est ça.
Dont on sait qu'il a quand même des capacités techniques sans doute suffisantes pour le réparer. Donc, on se doute bien qu'il va y avoir Joaquim Torres Falcon qui va débarquer à un moment, peut-être pas dans la série là, mais...
Moi, je le vois bien débarquer là, au climax d'un...
Peut-être.
De l'action pour donner un coup de main. Je vois pas non plus dans une série à part ou, tu vois, dans un autre film. Donc,
ouais, non, c'est vrai, c'est vrai.
Si c'est pas maintenant, je sais pas si ça sera un jour, mais...
Ouais. Ouais, y a plein de pistes pour des Young Avengers. Hein. Y a le petit-fils de Isaiah Bradley qui peut être un Young Avenger. Il y a... bref, il y en a plein.
Les enfants de Wanda qui sont
voilà,
pas là.
Il y a la fille de Ant-Man. Il y a Kate Bishop qui va arriver avec la série Hawkeye. Il y a Kamala Khan, Miss Marvel. Enfin, il y en a plein. Pourrait être des Young Avengers. Et donc, cette scène... Ouais, vas-y.
Moi, j'allais juste dire qu'il ne nous restait plus qu'à parler de ce qui se passe côté Flag Smasher, du coup.
Mm-hmm.
Et Sharon, puisque du coup, alors là, c'est là où on ne sait plus trop, en fait, ce que souhaite Sharon, hein, parce que...
Ouais.
On la voit, en fait, on la voit appeler Batroc, hein, Batroc qui est le
c'est le méchant qui a... Élu. Ouais, qui s'appelle dans les comics le Leaper, c'est le sauteur, il peut sauter.
D'accord.
Et il est censé être français, même si l'acteur est clairement canadien, là, dans la série.
Ouais,
et c'était le méchant du début dans la première scène, la scène d'ouverture de la série, qui était très bien foutue, où il a perdu
On comprend que c'était elle qui l'avait embauché pour le job du début, du coup. Puisque c'est du ça. Coup, il lui dit « Ah, plus jamais je travaillerai pour toi » et tout. Et elle lui dit, bon, je te paye le double et j'ai encore besoin de toi. Et du coup, elle l'envoie aider les Flag Smashers à prendre d'assaut le GRC à New York.
Pendant le vote sur le Patch Act, qui est censé envoyer, rapatrier tous les gens qui sont réapparus, enfin, qui ont bougé pendant le snap, pendant le blip. Entre le snap et le blip, et qui est un truc que les Flag Smashers ne veulent pas du tout, évidemment. Mais du coup, Sharon, quoi le fuck, à ton avis ? Qu'est-ce qu'elle fait ?
Je sais pas exactement. Tout le monde pense que c'est effectivement le Power Broker. Je pense que c'est fortement possible. Après, je tomberai pas de ma chaise si c'est un autre personnage, mais j'ai l'impression quand même que c'est un personnage que Sharon gravite autour du Power Broker. Ouais. Ça, pour moi, ça c'est certain. Ouais. Que ce soit un bras droit ou le Power Broker, je pense qu'on tourne autour de ces choses-là. Après, elle a peut-être, en plus de ses attributions de Power Broker, d'autres motivations qui justifieraient le fait qu'elle l'aide un petit peu ici, un petit peu là. Mais oui, j'avoue que je sais pas trop quoi en penser de plus que ça. Quoi.
Bah, c'est, ouais, on sait pas, hein, clairement. Mais enfin, on a montré, je sais plus combien de pièces d'art, comment dire, pas, qui n'ont même pas de prix. Genre là, ça ouvre sur le radeau de la Méduse, qui est vraiment invraisemblable. Et ouais, il réfère au Power Broker avec un pronom masculin à plusieurs reprises dans la série, mais ça veut pas dire qu'elle a pas... Bah, elle peut, enfin, il y a plein de raisons qui peuvent expliquer ça, même si c'est elle. Peut-être aussi que c'est une Skrull qui prépare, tu vois, Secret Invasion, qui est une série qui va être, je sais pas, dans quelques années.
En même temps,
ça serait bizarre.
Ouais, je veux dire, en même temps, je me dis que suite au meurtre du scientifique dans l'épisode 3, du coup, sa réaction était peut-être un peu légère si elle était vraiment
le Power Broker.
Tu sais, ouais. Directement impactée par.
Ou alors c'est une très bonne actrice, ouais. C'est pas.
En plus c'est elle qui les y amène et tout, donc tu vois c'est un peu étrange.
Je suis d'accord.
Peut-être que le Power Broker peut-être pas, mais en tout cas elle effectivement elle doit travailler avec.
La grande question c'est est-ce que elle est méchante ou est-ce qu'elle est gentille undercover, tu vois, c'est ça en fait la grande question. Est-ce que elle a tellement pété les plombs que maintenant elle y fuck tout le monde et moi je suis une criminelle, ce qui est quand même étrange pour Sharon Carter, la nièce. Mais enfin bon, on sait pas. Hein, comme le dit Sam, chacun doit prendre ses décisions pour soi. Si ça se trouve, elle estime que la bonne décision pour elle, c'est maintenant d'être une criminelle mastermind. Et peut-être qu'elle est en deep cover et qu'elle est en train de travailler pour Nick Fury, tu vois, enfin, depuis l'espace. Qui sait, on sait pas, mais bon,
on sait pas, mais je suis pas sûr qu'on sache
à la fin de la série. Moi, je crois pas non plus. Non, je crois pas. Et ils attaquent effectivement le GRC, donc on se doute bien que tout le monde va se retrouver à New York maintenant. Encore une fois, à New York, il y a la salle de.
J'ai dit New York, mais ils sont à New York, c'est bien New York,
oui, je crois bien. Ouais.
Ah, ouais, okay.
Bah, c'est les Nations Unies, donc je pense bien que c'est New York et. Effectivement, on pense que tout le monde va s'y retrouver. Carly, et je ne sais pas si elle a encore un ou deux, si elle a un ou deux super soldats en plus. Et Batroc, parce que sinon, ça serait pas. Il faut quelques personnes en plus, sinon, ils ne vont pas tenir bien longtemps. Et John Walker, Falcon en Captain America. D'ailleurs, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer entre John Walker et Falcon Captain America. Et il y aura aussi, bien sûr, Bucky. Ouais,
je pense qu'on s'attend à un duel. On s'attend à un duel de boucliers. Vraiment un contre un.
Et le bouclier de Sam qui casse le bouclier de US Agent, peut-être.
Ouais. Parce que du coup, maintenant qu'il a une armure en vibranium, il peut probablement absorber. Parce que ça, c'était une des caractéristiques de la combinaison de Black Panther, c'était de pouvoir absorber un peu
l'énergie cinétique
et tout. Ouais. Donc peut-être qu'il a un peu la capacité à absorber les coups de super soldat maintenant.
C'est possible. C'est vrai, une armure en vibranium, c'est très pratique. Et fabriquée par Shuri, en plus, il va y avoir des gadgets sympas. Mais oui, du coup, je sais pas, tu vois, s'ils y vont pour arrêter les Flag Smashers et qu'ils se mettent à se taper sur la gueule, peut-être que Carly sera hors d'état de nuire et que Walker voudra la tuer et Sam va s'interposer et donc ils vont se battre, un truc comme ça, peut-être, je sais pas. Ouais. Effectivement.
Ouais.
Est-ce que tu imagines une surprise en plus ou c'est juste le gros combat final ça, c'est long quand même pour un épisode entier, un seul combat. Il risque d'y avoir des trucs quand même.
Bah, tu vois, déjà, pour moi, si on a Torres qui arrive avec les ailes d'origine de Falcon, je trouve que ça fait office de plot, de plot twist, de surprise, on va dire, suffisante.
Ouais.
Quoi.
Ouais, mais ça, c'est... Enfin, moi, ce que je veux dire, c'est plutôt, est-ce qu'il va y avoir encore un aftermath ? Est-ce qu'on va voir vraiment un procès de John Walker ? Est-ce que, tu vois, la vie après, un petit peu comme dans la série, dans WandaVision, le dernier épisode, c'était la première moitié, le combat, parce qu'il faut la bagarre, et donc, voilà. Mais la deuxième moitié, c'était vraiment des moments, justement, de personnages émouvants, forts. Et je me demande si on va pas voir un petit peu ça, même si on les a déjà eus à cet avant-dernier épisode quand même. C'est juste que je vois mal le combat durer 45 minutes, tu vois.
Non, c'est certain, c'est certain.
Ouais.
J'espère que l'épisode sera un petit peu velu pour justement permettre à la fois une montée en puissance dans l'épisode pour avoir le combat combattante attendue, mais aussi du temps effectivement pour calmer le jeu derrière et puis remontrer le nouveau statu quo. Parce que finalement, ce qu'on peut penser qui se passe, c'est que à la fin, Sam est Captain America. Et ceux qui n'ont pas vu la série, finalement, à la fin de Endgame, il reçoit le bouclier, et donc quand il réapparaîtra dans les films, ça sera logique, tu vois, qu'il soit Captain America, etc. Donc ça me semble une fin, tu vois, un peu logique.
C'est vrai.
Et donc il faut juste un tout petit peu de temps pour montrer qu'il est peut-être reconnu par le gouvernement, etc. Tu vois, enfin que finalement le gouvernement américain dise ok, finalement c'est toi Captain America. Enfin, je sais pas.
D'accord. Oui, je pense aussi. Ouais. Très bien, et bien écoute, on est arrivé au bout de ces deux épisodes et il n'en reste qu'un dans quelques jours à peine et on sera de retour. Oui. Alors lundi ou mardi, on verra, j'espère, en fonction de la manière dont ça se passe de mon côté, pour le dernier épisode. Et puis après, je ne sais pas ce qui va se passer parce qu'on va avoir quoi, 2 mois avant la série Loki et en juillet, mais on pourra en parler la semaine prochaine, mais en juillet, il y aura Black Widow. Je suis sûr qu'on se fera une petite review aussi. Et puis, il y aura la série Loki en cours de route. Mais il va y avoir 2 mois sans rien. Donc, on en discutera off.
Ouais, déjà, ça te laissera un peu de temps aussi de ton côté. Mais on va trouver quelque chose.
Mais l'envie de te parler, Johan, est tellement forte. Peut-être qu'on trouvera une excuse.
on regardera des épisodes de Choupi.
Ah ouais, mais dans cet épisode, Choupi, il est quand même un petit peu hors de caractère, tu vois. C'est pas tout à fait son personnage, quand même. Le papa de Choupi, il est... Bon, bref. Oui, tu voulais ajouter quelque chose ?
Je voulais ajouter que, pour ceux qui regardent les bandes-annonces, il y a eu la bande-annonce de Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Alors, je sais pas si le titre est traduit comme ça, mais c'est And the Legend of the Ten Rings, qui est sorti hier. Donc, évidemment, on n'en parlera pas ici parce que...
Ouais. Je l'ai regardé, c'est un teaser. Je me suis dit, le teaser, c'est...
Je l'ai regardé. Je trouvais que ça en montrait quand même beaucoup. Mais ouais, c'était juste pour dire que c'est vraiment mon... Ça part sur... a priori, c'est ma cam.
D'accord. Moi, je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu. Je demande encore à être convaincu. Ça a l'air d'être un... Ça pourrait être un Bruce Lee, tu vois, limite.
Voilà, c'est pour ça que c'est ma cam.
Donc, c'est ta cam, ouais, forcément. Mais c'est un genre qu'ils n'ont pas vraiment exploré dans le MCU encore. Et comme ils ont besoin d'imprimer à chaque série de films un genre différent, c'est assez logique que ça soit ça, mais ça a l'air d'être un petit peu ça, quoi. Mais bon, je le verrai de toute façon, évidemment, et je peux être agréablement surpris. Ce qui est intéressant avec les Ten Rings, c'est qu'on a déjà vu l'organisation dans les Iron Man, spécifiquement Iron Man 3. Déjà, déjà le 1, mais dans le 3 aussi. Ouais. C'est vrai que dans le 1, il y avait les Ten Rings. Et donc, on va voir s'ils y feront référence ou s'ils vont mentionner, comment il s'appelle, Trevor Slattery, qui était un formidable personnage qui fait le mandarin. I'm an actor! Bon, bref, peu importe.
J'avais beaucoup aimé ça, moi, à l'époque.
Oui, moi aussi.
J'ai cru comprendre qu'il y avait un court-métrage qui montrait que... Qui précisait que c'était pas le vrai, qu'il y avait un vrai mandarin.
Tout à fait. Il est en prison, Slattery, et il y a un agent du mandarin qui vient le voir et qui vient lui dire « Nous voudrions discuter de votre appropriation de l'image de mon boss. » Et là, tu vois qu'il va passer un sale quart d'heure, Slattery. Mais bon. Bref, on va s'arrêter là pour cet épisode. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve, j'espère, dans une semaine pour le dernier épisode, le débrief du dernier épisode de Falcon and Winter Soldier et du coup de la série dans son ensemble. Et puis on verra si on parle d'autres choses ensuite. En attendant, si les gens veulent un petit peu plus de Johan, où doivent-ils aller ?
Alors, ils peuvent aller sur Twitter, @yoat_, ou sinon sur le Discord de French Spin, enfin du Rendez-vous Tech, où il y a une partie libre à tous pour discuter du podcast et on peut discuter de ce qu'on. Voilà, du MCU. Si vous voulez venir faire un coucou, ça sera avec plaisir.
C'est une communauté fort sympathique que vous retrouvez en allant sur notepatrick.com. Il y a un lien vers le Discord, tout simplement. Et vous trouvez sur notepatrick.com tous les liens vers tout ce que je fais. Donc, vous pouvez aller voir de ce côté-là pour tous les podcasts, toutes les activités que je fais, qui sont bien sûr un petit peu intermittentes en ce moment. Mais sinon, vous pouvez aussi me retrouver sur Twitter, Facebook et Instagram sous le nom, vous l'avez deviné, toi-même tu sais, NotePatrick. C'est NotePatrick absolument partout. On vous fait de grosses bises et on se retrouve du coup dans une petite semaine. Ciao à tous.